je dirais, d'intellectualisation passive en disant bon, bah, j'ai bien compris ce qu'on vient de m'expliquer pendant cette conférence, maintenant je vais méditer dessus, ou est-ce qu'il y a des choses à...
Moi, je médite rarement quand je me suis blessé sur la peau qui se cicatrise. En revanche, ça, je n'ai pas d'impact là-dessus. Ça se fait. Il y a vraiment une confiance intrinsèque que ça se fait. En revanche, ce que je peux faire, puisqu'on est beaucoup dans une société du faire, et puis je suis un gars, les gars, ils aiment bien faire des choses, c'est de pouvoir mobiliser le plus de ressources intérieures, extérieures, pour accompagner du mieux possible. Hein? Par exemple, s'il m'appelait, je la laisse au grand vent sans mettre un peu de stéréostrip ou des points, ou si je me roule dans la terre comme ça et que j'y prête pas soin, bah, elle risque de s'infecter, elle risque de faire une mauvaise cicatrice avec des déformations. Voilà, c'est, j'y pense pas, mais je ne crée pas les conditions pour accompagner ce processus qui se fait tout seul. Mais si je nettoie, je mets des stéréostrips, je mets un pansement, je nettoie régulièrement, là j'accompagne et la cicatrice sera toujours là. À tout jamais, mais au moins elle sera de bonne qualité. Donc ça se fait et ça se fait avec des conditions. Et les proches sont le facteur déterminant pour le bon déroulement de cela.
C'est là où le bât blesse peut-être, parce que même s'ils sont de la meilleure intention et dans de meilleures dispositions, au bout de 12 mois, effectivement, ils commencent à ne plus être disponibles du tout pour ça. Donc,
Et ils font des bourdes. Des paroles malheureuses, c'est alors le truc. Bon, t'es encore jeune, tu pourras te remarier. Faut faire un autre enfant. Bon, mais tu as déjà d'autres enfants. C'est un best-of, ça. T'as déjà d'autres enfants. Qu'est-ce qu'on entend comme ânerie aussi? C'est bon, bah, enfin, etc. Gens d'ânerie qui sont là, qui partent toujours du. Ou alors, allez, secoue-toi, moi je suis ta copine, je suis ton copain, je veux pas te laisser te morfondre là-dedans, allez, on va vider la maison de toutes les affaires de ton mari, hop, hop, hop. Non, ça fait juste 3 mois, j'ai besoin de. Un exemple, hein, d'entrer dans l'armoire et de me mettre entre ses vestons. Et de rester là. Quand on raconte ça aux copines, on dit tu fais ça là? Et alors que oui, on fait ça. Mais il y a une telle méconnaissance de ce qui se passe, des besoins fondamentaux qui sont là, qu'on arrive à mettre une étiquette pathologique sur ce qui est complètement normal et même, je vais plus loin, souhaitable dans le processus. Hein. On a besoin de support tangible avant d'avoir le support intérieur. Donc, les autres, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des discours sur le deuil, pour lentement mais sûrement, il y ait un changement d'attitude. Et moi je crois que le plus gros changement d'attitude, c'est une conscience de temps. Hein, là où le bât blesse, c'est qu'on veut que ça aille trop vite. Si les personnes intégraient qu'il faut beaucoup plus de temps, que le premier anniversaire du décès, un an après, est un temps hyper fragile, où se réactive tout ce qu'on a vécu un an avant, que 2 ans après, c'est la même chose, que 3 ans après, c'est la même chose, et parfois avec la même intensité, parfois pire, si on le sait, on accompagne ça, on est présent. Si on sait que même 1 an et demi, ou 2 ans, ou 3 ans après, à un repas, on lève un verre, un repas Noël, on dit à Sébastien, le petit Sébastien qui est mort il y a 3 ans, et dont personne parle, ben on fait juste du bien. Et les gens se taisent parce qu'ils ont la méconnaissance, ils disent « mais on va remuer le couteau dans la plaie », comme si la maman qui a perdu son petit, après 3 ans, elle n'y pensait plus. C'est aberrant, quoi. Non, on ne va pas lui rappeler son enfant, mais il y pense tous les jours à son enfant. Il y a quelque chose de véritablement apaisant et rassurant de savoir qu'on n'est pas la seule personne à porter le souvenir de son enfant, ou de son compagnon, ou de son papa, ou de sa maman. Et il y a vraiment des petites choses, c'est des petits détails qui, mis bout à bout, font la différence et extrait, quand on est dans cette peine-là, extrait de ce sentiment de solitude intrinsèque. Le deuil, c'est un processus de solitude ultime. Ça nous ramène, mais ça c'est qu'on le veuille ou non, hein, c'est un mouvement centripète, ça nous ramène toujours au cœur du cœur de l'intime de nous. C'est là où il y a une solitude ultime, la solitude fondamentale, la même solitude qui est la nôtre quand on est, et qu'on est entouré de femmes, de sages-femmes et de plein de médecins, on est quand même tout seul à naître. Et c'est la même solitude à l'autre bout de la vie quand on va mourir, même si on est entouré de tous ses proches, de l'amour de ses proches et des soignants. Cette solitude fondamentale, il y a plein de circonstances dans notre vie où on y est happé. Le deuil, c'est une des circonstances où on va dans ce lieu de solitude, où on sait qu'on est seul. Et c'est un lieu, et c'est là, dans ce tréfonds que parfois on a peur, une terreur de rencontrer, de s'installer là-dedans, que se distille la peine, mais aussi que se distille le lien. C'est là, le lien intime, c'est dans ce lieu-là, d'ultime solitude dont on a peur, que se construit le lien. C'est pour ça que dans le vécu du deuil, il est essentiel d'être en lien avec les autres pour du réconfort, de la tendresse, de l'écoute, mais de se ménager des temps où on est seul avec soi-même dans ce lieu d'élaboration où se distille le lien, lentement, au fil des années. Et c'est aussi le lieu, hein, allons-y, hein, même si je suis psychiatre, c'est le lieu de la spiritualité. C'est là où va se construire les ébauches de sens qu'on va pouvoir commencer à donner, c'est là où se construisent le lien, un lien qui ne meurt jamais, pour reprendre le titre de Lita Bassé, hein, qui a écrit ce livre, lisez-le, hein, si vous avez perdu un proche par suicide, Lita Bassé, ce lien qui ne meurt jamais. Elle a perdu son petit, son grand garçon, du suicide, et là elle en parle vraiment de façon incroyable. C'est vraiment ça, cette quatrième étape, et c'est dans ce lieu de solitude ultime. Donc il y a la solitude structurelle au deuil, même si vous êtes en couple, hein, d'ailleurs, votre compagnon ou compagne est dans cette solitude, le compagnon et la compagne est dans, et vous prenez, attends, vous prenez une grosse boule, la boule c'est vous, et au milieu de la boule, le centre de gravité de la boule, c'est votre l'ultime de l'ultime de vous, le cœur de vous. Ça c'est si vous avez perdu votre petit, hein. Et ça c'est le papa et la maman, qui a aussi le cœur du cœur d'elle-même. Vous collez les deux boules ensemble, aussi proches soient-elles, il y aura toujours une distance entre les deux points centraux. Donc il y aura toujours, toujours, merci, toujours une distance structurelle entre deux personnes qui sont en deuil, on ne peut pas se rejoindre. Et il n'y a pas un bug, il n'y a pas une erreur de casting sur le conjoint. Non, c'est juste que structurellement, il y a et donc pas en vouloir au compagnon ou à la compagne, il dit, mais attends, t'es la personne que j'aime le plus au monde et t'es pas là. T'es pas là, je te sens pas là. Ben non, parce qu'il peut pas y être. Et le seul pont, c'est la tendresse, c'est l'amour et la compréhension de là où est l'un l'autre. Encore faut-il pouvoir comprendre qu'il y a un processus et l'apprendre. C'est pas un savoir intrinsèque, hein. C'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre pour cheminer.